Chérie Bibi et Cécilie, chapitre 6. Voyage de noces. Le lendemain matin, Chérie Bibi se promenait dans les allées de son jardin avec un petit air satisfait. La ficelle le rejoignit dans le moment qu'il parlait tout seul. « Que faites-vous donc, monsieur le marquis ? Voilà que vous parlez tout seul maintenant ?»«
Monsieur Hilaire, répondit Chérie Bibi. « Je suis en train de me raccommoder avec le bon Dieu. Voyez le beau temps qu'il fait, et comme cette terre est belle sous le ciel d'azur, comme ces fleurs embaument, comme l'air du matin est frais et vivifiant, comme on respire largement au bord de cette mer apaisée. Je suis heureux, mon bon La Ficelle, et je demande pardon au Créateur d'avoir méconnu jusqu'à ce jour la douceur de ses bienfaits.
Ah ! J'aime à vous entendre parler de la sorte, monsieur le marquis. Je vous assure qu'hier, quand je vous ai vu prendre le chemin de Pourville avec cet air sombre, annonciateur des pires catastrophes, j'ai bien cru que c'en était fini de notre sécurité et de notre bonheur. La fatalité, me disais-je, le poursuit encore, le poursuivra toujours. Chérie Bibi retourne au crime.
J'allais à l'amour, répliqua le marquis.
Disant cela, Chérie Bibi avait levé au-dessus de sa tête ses deux bras en forme de corbeille, dans un geste de gracieuse exaltation qui frappa particulièrement M. Hilaire. Celui-ci se rapprocha encore de Chérie Bibi, l'examina avec une curiosité un peu effrontée, et lui demanda sans aucune discrétion « Mais qu'est-ce que monsieur le marquis a de changé ?»«
J'ai de changé que Cécilie même, mon cher, mon bon, mon excellent La Ficelle. »
Et le marquis serrait les mains de son secrétaire avec un transport tel que celui-ci en eut les larmes aux yeux, tant cette démonstration d'une sûre, d'une impérissable amitié lui broyait les phalanges.
« Monsieur le marquis, vous me faites mal !»
osa soupirer le pauvre garçon qui était devenu blême de douleur.
« C'est pour te punir, mon cher La Ficelle, de cette déplorable manie que tu as d'écouter derrière les portes. Outre que ça ne se fait pas dans notre monde, cela te conduit, comme tu écoutes mal, à mal comprendre. Et voilà comment j'ai pu croire une seconde que la marquise, qui est la plus pure des femmes, aimait ce pont-mari qu'elle a en abomination. Une fois pour toutes, La Ficelle, sache que la marquise n'aime que moi. » Une joie si orgueilleuse, une si truculente allégresse, était peinte sur l'éblouissant visage de Chérie Bibi, que M. Hilaire ne douta plus que la victoire ne fût complète. Il s'inclina et dit « Tous mes compliments. Du reste, je dois avouer à monsieur le marquis que je n'ai jamais douté que monsieur le marquis triomphât. Les vertus de monsieur le marquis...
Dis donc, La Ficelle, il ne faudrait pas t'offrir ma tête, mon ami.
Je jure que je ne dis que ce que je pense, et même que ces expressions sont loin de rendre toute l'estime et toute la confiance et toute...
C'est bon, c'est bon.
Et toi, La Ficelle, « es-tu heureux ? Tu m'as parlé d'une certaine Virginie. »«
Monsieur, je puis vous dire que tout se présente, de ce côté, de la plus encourageante façon. »«
Allons, tant mieux. Je ne suis pas un égoïste, et j'aime, quand je suis heureux, à ce que tout le monde le soit autour de moi. »«
Et maintenant, allez-vous-en, mon ami, car je vois venir la marquise dans son charmant déshabillé du matin. »
La Ficelle ne se le fit pas répéter et se sauva en saluant de loin Cécilie qui descendait les marches du perron, blanche et harmonieuse apparition, au seuil de cette maison du bonheur. Chérie Bibi s'en fut au-devant de sa femme, les mains tendues et le sourire reconnaissant. Cécilie, un peu rougissante, pencha son front sur lui pour qu'il l'embrassât. Mais Chérie Bibi attira sa femme sur sa vaste poitrine et voulut un instant l'y retenir prisonnière. Mais la marquise lui dit gentiment « Maxime, prenez garde aux domestiques. »
« Tu as raison, mon amour, » obtempéra l'obéissant époux. « Notre bonheur est si en dehors de tout et de tous que nous devons le garder pour nous tout seuls. Aussi, pour fuir les regards indiscrets, voici, adoré, ce que je te propose après mûre réflexion. Un petit voyage de noces. Au milieu des inconnus et voyageant incognito, nous serons plus facilement l'un à l'autre. Aucun devoir mondain ne viendra troubler le cours de notre bonheur tout neuf, car pour moi, comme pour toi, je l'espère, nous sommes de tout jeunes époux et nous ne sommes mariés que d'hier. Mon ami, je ferai tout ce que vous voudrez, répondit Cécilie avec un sourire angélique. Partout où je serai à votre côté, je serai la plus heureuse des femmes. Ils décidèrent vite de partir pour Paris. Chéri Bibi faisait le beau et le renseignait. Dans la peur qu'il avait qu'on ne le crût point assez marquis, il exagérait les plaisirs de la capitale, tristes joies éphémères qu'il avait subies avec résignation à son retour d'Amérique et dont il parlait, sans s'en douter, bien entendu, comme un provincial. Ce qui le sauvait, c'est que Cécilie était, la chère femme, plus ignorante et plus simple encore d'esprit que lui. Comme, dans le train qui allait les déposer sur les quais de la gare Saint-Lazare, Chéri Bibi croyait devoir reprendre avec une certaine exaltation de commande et qu'il estimait de bon goût l'énumération des félicités qui les attendaient, Cécilie se blottit câlinement contre lui et lui dit en lui montrant ses beaux yeux suppliants « Mon Maxime, si Paris allait te reprendre, songe-y bien, mon ami, je n'y survivrai pas. » « Ni moi non plus, » répliqua Chéri Bibi, « car je t'assure que je suis bien là et bien fatiguée de cette existence stupide de grand seigneur. Aussi tu n'as plus rien à craindre, m'amour. Il n'y a plus au monde pour Maxime que sa Cécilie. » L'amour se plaît toujours aux propos enfantins et aime les tournures de phrases d'autant plus jeunettes que ceux qui les échangent sont plus éloignés de leur moi de nourrice. Le train arrivait, ils allèrent d'abord au bureau télégraphique de la gare envoyer une dépêche à Miss et à la ficelle, qui avaient reçu tous deux la garde sacrée du petit Bernard. Et puis ils descendirent à pied dans Paris, sur le désir de Cécilie, que la perspective de marcher sur les trottoirs et de s'arrêter à la devanture des magasins amusait. La première chose qu'aperçut Chéri Bibi en mettant le pied sur l'asphalte parisien, où il avait mené une si éblouissante existence, fut ce bureau d'omnibus où l'inspecteur Costaud l'avait si brutalement poursuivi à la suite d'il ne savait plus bien quel crime. Il détourna la tête. Ayant remonté la rue Aubert, ils arrivèrent devant l'opéra, que Chéri Bibi fit admirer à Cécilie, et n'oubliant pas de mentionner qu'autrefois il y avait eu sa loge. « Nous irons entendre Faust, » dit-elle. « Faust à l'opéra et Œdipe roi à la Comédie-Française. Voilà ce que je désire voir d'abord à Paris. » « Et puis le tombeau de l'empereur, » ajouta Chéri Bibi. « Tu te moques de moi, » dit Cécilie avec une moue gentille. « Je sais bien que je ne suis pas parisienne, mais je le deviendrai si cela peut te faire plaisir. » « Jamais de la vie, ma Cécilie, reste comme tu es. Tu es un ange, la plus belle, la plus intelligente, la meilleure des femmes. Ah, pour rien au monde, je ne voudrais que tu devinsses comme une de ces poupées avec lesquelles j'ai gaspillé les plus belles années de ma vie. Elles n'ont ni cœur, ni cervelle, et passent leur temps à changer de toilette et à se mettre de la poudre de riz. « Quelle misérable vie !» soupira Cécilie. « Oui, quelle existence pour elles et pour leurs maris, et pour leurs enfants quand elles en ont. Ah, quand je vois comme tu éduques notre Bernard !»«
Notre Bernard ? Ah, Maxime, comme tu es bon !»«
Eh bien, puisque je suis si bon que ça,
nous allons voir si l'on joue Faust ce soir. Et dans ce cas, nous n'attendrons pas plus longtemps pour contenter ton désir, ma chérie. » La marquise murmura « Faites-lui des aveux, portez mes vœux. » Il lui semblait vraiment qu'elle était jeune mariée, tant elle montrait de joie fraîche et un peu niaise à propos de petits rien du tout, comme d'un chapeau à une vitrine qui lui plut et que ce cher Maxime lui acheta, sans même marchander, bien qu'il coûtât 150 francs. « Qu'importe le prix, disait-il, du moment qu'il te va à ravir. » On ne jouait pas Faust ce soir-là, ce qui était bien extraordinaire, mais ils constatèrent, en arrivant place du Théâtre-Français, qu'ils voyageaient décidément sous les plus heureux auspices, car l'affiche de la comédie annonçait justement Mounet Sully dans Œdipe roi, ce qui est bien la plus belle chose que l'on puisse voir au théâtre. Aussitôt, Chéri Bibi arrêta une auto. « Nous allons rentrer nous habiller dans notre palace, cher ami, et puis nous irons dîner en ville, et puis nous irons à Œdipe roi, puisque cette pièce t'amuse. Que la fête commence !» Chéri Bibi avait fait envoyer les mâles dans un grand hôtel de la rue de Rivoli. Il y retint un appartement dont les fenêtres s'ouvraient sur le jardin des Tuileries. Cécilie lui en fut reconnaissante. « Quelle douceur, cette verdure, ces arbres, ces pelouses, ces chants d'oiseaux et les cris joyeux des enfants, après le tumulte de la rue et l'encombrement des carrefours !» dit Cécilie. « Ici, on se croirait à la campagne. »« Déjà ?» dit en riant Chéri Bibi. « Voulez-vous qu'on y retourne ?»« Pas encore, mon ami. » Elle lui mit ses beaux bras autour du cou, et ils oublièrent la campagne et la ville dans un baiser. Après quoi, madame ayant sonné la femme de chambre, monsieur passa dans le petit salon où il prit un journal qui traînait et dans lequel il put lire « On annonce le départ pour Cayenne de 28 jeunes filles bien constituées tirées de la maison centrale de Clermont. Quelques-unes sont particulièrement belles. On se propose de les unir aux forçats qui se seront fait remarquer par leur bonne conduite. Décidément, depuis l'aventure de Chéri Bibi, l'administration pénitentiaire ne sait plus quoi inventer pour se faire bien voir de ces messieurs de la relingue. Ayant appris à ses dépens combien les chaînes de fer comptent peu pour des gaillards pareils, elle les remplace par les doux liens d'une union forcée, mais honnête. Chéri Bibi, avant de mourir, aura beaucoup fait pour la chiourme. Nous espérons que celle-ci, reconnaissante, quand elle se sera rendue maîtresse de nos pénitenciers, ce qui ne saurait tarder avec le système humanitaire actuel, n'hésitera plus à lui élever un monument sur la plus grande place de Nouméa et de Cayenne. » Chéri Bibi, après avoir lu, jeta le journal loin de lui avec un geste de dégoût. Cependant que la marquise entr'ouvrait justement la porte de sa chambre pour lui adresser son plus joli sourire. Un peignoir léger était jeté négligemment sur ses belles épaules. Chéri Bibi en loucha. Mais vive et coquette, Cécilie avait déjà couru au journal, l'avait ramassé et cherchait le passage qui avait si bien pu causer cette mauvaise humeur. « Ce n'est rien !» protestait Chéri Bibi. « Je t'en prie, Cécilie, ne lis pas. Les chroniqueurs d'aujourd'hui n'ont plus aucun esprit, et messieurs les journalistes en sont réduits à chercher midi à 14 heures pour remplir leurs colonnes. Va vite t'habiller, ma Cécilie. Si nous voulons aller au théâtre, nous ne sommes pas en avance. » Mais elle, mutine, voulait voir. Et elle lut le passage où il était question de Chéri Bibi. Elle rejeta, elle aussi, le journal avec horreur. « Toujours ce nom !» fit-elle. « Je le fuis et il me poursuit partout. C'est en vain que je voudrais l'oublier, ce monstre qui fut l'assassin de mon père et du tien. Quand je pense aux bontés que j'ai eues pour lui dans ma jeunesse, le traitant comme un petit camarade, bien qu'il fût l'enfant de la concierge. Ah ! Je voudrais retourner à cette époque pour lui tordre le cou. Que de catastrophes eussent été ainsi évitées, et ils n'auraient pas épouvanté l'univers.
Soudain, Cécilie courut au marquis, effondrée.
« Oh, mon ami, qu'avez-vous? Comme vous êtes pâle! Allez-vous vous trouver mal?
Donnez-moi un verre d'eau sucrée !» murmurèrent les lèvres blêmes de Chéri-Bibi.
« Je ne me sens pas, en effet, bien à mon aise. »«
C'est de ma faute !» sanglota éperdue la pauvre Cécilie en écrasant un morceau de sucre au fond d'un verre, qu'elle tendit en tremblant à son impressionnable époux.
« C'est de ma faute. J'avais bien besoin de faire revivre ces épouvantables souvenirs. Comment vous trouvez-vous ? » ?»«
Merci, ça va mieux. Mais voyez-vous, cher ami, chaque fois que l'on parle devant moi de ce chéri Bibi,
cela ne m'arrivera plus, je vous le jure, Maxime. Mais pardonnez-moi pour cette fois, ce fatal retour au passé, comme je me le pardonne à moi-même, car au moins j'aurai eu une fois de plus la preuve de la sensibilité de votre cœur, mon ami. Vous êtes bon, et vous aimiez bien vos parents, cher Maxime. »
Si je les aimais, soupira chéri Bibi en levant les yeux au ciel.
Eh bien, s'ils nous voient maintenant là-haut,
exprima Cécilie avec une douce piété, ils doivent être heureux de notre bonheur. Et elle se pencha vers lui pour l'embrasser sur le front. Mais, enivré de son parfum, l'autre tendit les bras, et il ne fallut rien de moins que l'impatience de la femme de chambre, oubliée dans la chambre à côté, pour qu'il se souvînse de l'heure qui marche toujours, elle, que l'on rit ou que l'on pleure, que l'on s'embrasse ou que l'on assassine. Ils venaient de faire leur entrée dans un restaurant du boulevard des Capucines, quand le maître d'hôtel, courant à chéri Bibi avec un empressement de bon augure, montra une table à Monsieur le Marquis. Pendant que Cécilie, en laissant aller son royal manteau aux mains du valet de pied, concevait une légitime vanité d'être vue au bras d'un homme à la mode, si connu dans la capitale, chéri Bibi, dans la crainte de quelque impair, regrettait d'être venu dans ce restaurant où le maître d'hôtel le connaissait si bien, alors que lui le connaissait si peu. La figure de ce maître d'hôtel rayonnait d'une façon inquiétante. La joie qu'il avait de revoir Monsieur le Marquis le rendait dangereux par l'abondance de ses discours. Il s'informait de la santé de son client, se plaignait d'être resté de si longues années sans le voir, et faisait allusion à de lointains services, sortant de la nuit des temps des noms de compagnons, d'anciennes ripailles que chéri Bibi entendait pour la première fois. Décidé à couper court à cette exubérance qu'il jugeait avec raison de mauvais goût et qui le mettait au supplice à cause de la difficulté qu'il avait à y prendre part, chéri Bibi finit par dire d'un ton très sec, mais un peu au hasard, « C'est bien, Henri, donnez-moi la carte. » Le maître d'hôtel, devenu subitement froid et correct et extraordinairement réservé, attendit la commande, après avoir fait remarquer cependant qu'il ne s'appelait pas Henri, mais Émile. Le dîner manqua un peu d'entrain à cause de l'air glacé avec lequel Émile, et non Henri, tournait autour de la table de chéri Bibi, veillant au service avec un soin jaloux. On eût dit qu'il avait peur que chéri Bibi se sauvât sans payer. Celui-ci en eut peut-être l'intuition, car il ne tarda pas à demander l'addition, négligeant liqueurs et cigares. Comme chéri Bibi venait de laisser ostensiblement dans l'assiette un pourboire qu'il croyait excessif et qui n'était que suffisant, la figure sévère du maître d'hôtel se pencha vers lui et ses lèvres remuèrent.
« Monsieur le marquis, que je n'ai pas vu depuis tant d'années, a sans doute oublié qu'il me doit 20 francs. »
Chéri Bibi blêmit, car Cécilie avait entendu. Sans tergiverser cependant, il glissa 2 doigts dans la poche de son gilet et jeta le louis au maître d'hôtel qui le ramassa en disant « Merci pour les intérêts. Le vestiaire de monsieur le marquis ?» Chéri Bibi était furieux.
De blême, il était devenu pâle de rage, et il fut heureux de retrouver l'air frais dans un moment où il avait tant besoin de son sang-froid. L'idiot ! Ne put-il s'empêcher de s'écrier aussitôt sur le trottoir. Il empruntait de l'argent au domestique. « De qui donc parlez-vous, mon ami ?» demanda Cécilie, inquiète de le voir dans cet état de fureur concentrée. « Ah, d'un camarade de jeunesse que je chargeais de régler mes dépenses en ville et qui était assez indélicat, comme vous avez pu le constater vous-même, hélas, pour me laisser des dettes partout. « Mon Dieu, mon cher Maxime, ça n'est pas bien grave. Mais entre nous, vous auriez dû récompenser la complaisance du maître d'hôtel, qui avait ainsi rendu service à votre ami en croyant le rendre à vous-même. » Cela qu'elle ne méritait pas un sou, déclara chérie Bibi avec force. Et puis, si je suis parfois généreux jusqu'à la prodigalité, allusion au chapeau de 150 francs, dévoué jusqu'à l'abnégation, reconnaissant jusqu'au sacrifice, je me montre volontiers ménagé jusqu'à la pingrerie avec des valets qui ne demandent qu'à vous voler, et rancunier jusqu'à la haine, haineux jusqu'à la vengeance, vindicatif jusqu'à l'embûche et à la trahison. « Mon ami, vous vous calomniez !» s'exclama la pauvre Cécilie. « Vous m'avez prouvé que vous saviez pardonner. »« Tu m'avais pardonné avant moi, ange au front vermeil !» répliqua chérie Bibi en serrant le bras de sa femme apeurée. « Mais alors, pour qui ces terribles paroles ? Pour qui avez-vous de la haine ? Pour qui de la vengeance, des embûches et de la trahison ?» Chéri Bibi s'essuya le front. Il était calme, il répondit. « Pour ce camarade qui a emprunté 20 francs pour moi à Émile. » « Mon Dieu, Maxime, tout cela est bien loin. Jurez-moi que si par hasard vous rencontrez à Paris ce vieux camarade, vous ne lui ferez pas de mal. » « Je puis vous jurer cela, ma Cécilie, et que ma colère ne vous épouvante point. Ce vieux camarade est mort. » Ils étaient arrivés place du Théâtre-Français, et c'est ainsi qu'ils pénétrèrent dans l'auguste maison en se faisant les plus doux compliments, en s'adressant les plus heureux regards, ne s'imaginant point qu'ils étaient curieusement observés par un couple qui loua une loge au bureau derrière eux et qui se trouva comme par hasard en face d'eux dans la salle de spectacle. Ce fut Cécilie qui les aperçut la première. « Tiens, » dit-elle, « monsieur et madame d'Artigues. » « Où donc ?» demanda chérie Bibi, qui se rappela soudain le couple mondain qui lui avait été présenté lorsqu'il était commandant du Bayard. « En face, mon ami, ne les voyez-vous point ? Ils nous voient, eux, ils nous saluent. Répondez donc à leur salut, Maxime. » Maxime s'inclina de mauvaise grâce. « Je dois vous dire, cher ami, que je n'aime point beaucoup ces gens-là, » fit-il. « Nous sommes un peu en froid depuis notre dernière traversée. Ils m'en ont voulu de tout leur malheur, et moi, de mon côté, je me suis aperçu que sous leur dehors mondain, ce ne sont point des gens tout à fait comme il faut. J'aime à vous l'entendre dire, mon ami, car c'est toujours, je vous l'avoue aujourd'hui, avec une certaine répugnance que je les recevais autrefois à notre table. Mais vous me les ameniez, Maxime, et même dans ce temps-là, je n'aurais point voulu vous contrarier en rien. Autant que possible, je leur faisais bon visage. » « Vous êtes le modèle des épouses, Cécilie. Que dis-je, vous êtes une sainte. » « Les saintes attendent leur récompense du paradis, » répliqua la marquise du tac au tac. « Mais moi, j'ai eu mon bonheur sur la terre. » Et elle lui serra la main. Il laissa sa rude patte dans ce petit gant blanc parfumé qui le pressait délicieusement, et il enveloppa sa femme de son chaud regard d'amour. Il avait oublié tous les d'Artigues de la terre quand le rideau se leva sur les malheurs d'Œdipe. Enfant du vieux Cadmus, jeune postérité, Pourquoi vers ce palais vos cris sont-ils montés ? » Peu à peu, il s'intéressa à la pièce. Cette fatalité qui pesait sur le fils de Laïus et de Jocaste ne lui était point inconnue. Il en avait mesuré les coups. Il savait que ce n'était point là un conte, une invention, une imagination de poète. Il aima et plaignit Œdipe comme un frère. Dans un entr'acte, il sortit brusquement, sans rien dire à Cécilie, qui en resta tout étonnée. Il fit 500 pas dans la galerie des bustes, tourna en rond dans le foyer, sous le regard de Voltaire, se disant entre les dents des choses obscures qui le faisaient prendre pour un fou par ceux qui passaient près de lui. Quand il rentra dans la loge, Cécilie lui dit « Monsieur d'Artigues sort d'ici. Il a été extrêmement aimable. À l'entracte prochain, vous irez rendre cette politesse à Madame d'Artigues. Faites-lui entendre que nous sommes de passage, que nous partons demain. Surtout, évitez toute invitation, puisque ces gens vous déplaisent autant qu'à moi. » Chéri-Bibi approuva de la tête et se replongea dans la terrible aventure du héros thébain. Plus le malheur enserrait celui-ci de son lien funeste et inévitable, plus Chéri-Bibi montrait d'agitation. Par instants, il avait de sourdes exclamations qui surprenaient Cécilie. Il marmonnait des « C'est bien ça ! C'est bien ça !» approuvant du geste, enfin manifestant une telle sensibilité que la marquise, après avoir souri, finit par être touchée. Elle dut lui répéter 2 ou 3 fois à la fin de l'acte qu'il était de son devoir d'aller présenter ses hommages à Madame d'Artigues. Il y alla à son corps défendant, bien résolu à se montrer si maussade et si mal disposé à renouer des relations qui le gênaient que celles-ci s'en trouveraient définitivement rompues. À son entrée dans la loge, Madame d'Artigues se tourna vers lui avec une grâce un peu hautaine et lui tendit la main d'un geste de reine assujée. Le pauvre Chéri-Bibi en resta tout pantois. Il avait cru trouver Madame d'Artigues avec son mari, et celui-ci s'était éclipsé. Se rappelant les gentillesses qu'il avait surprises sur le Bayard, entre cette dame et le marquis du Touchet, Chéri-Bibi jugea sa situation assez inquiétante. Sans le savoir, peut-être s'était-il conduit comme un mufle avec une femme du monde, qui lui avait paru du dernier bien autrefois avec ce cher Maxime, et que celui-ci, depuis son retour en Europe, avait complètement oublié. La femme de lettres le pria de s'asseoir en le dévisageant curieusement à travers son face-à-main. « C'est drôle, » fit-elle. « Quand je vous regarde de bien près, je ne vous reconnais plus du tout. De loin, c'est vous. De près, j'en doute. Ce n'est point du reste la première fois que vous me produisez cet effet. Quand on a pu enfin vous revoir à bord du Bayard après votre maladie, je vous trouvais je ne sais quoi de changé. Je savais bien que la maladie pouvait transformer un homme, mais pas à ce point. » À de tels propos, Chéri-Bibi ne répondait que par un silence d'abruti et par l'anéantissement de tout son individu. Fallait-il que la malchance le poursuivît encore pour que, au début de ce voyage de noces qu'il avait rêvé si fleuri, si doux et si débarrassé de toute complication néfaste, il se heurta à cette rusée femelle dont la moindre parole lui donnait le frisson. Les yeux de Madame d'Artigues derrière le face-à-main lui faisaient peur. Lui, qui avait tout bravé et qui n'avait point redouté l'approche de Cécilie, se demandait avec une angoisse qui lui broyait le cœur si le miracle qui avait fait de lui un marquis n'allait point perdre de sa vertu devant ces yeux-là. Elle continuait. « Changé, vous l'avez été du tout au tout, pour les autres comme pour moi. Dès vos premières sorties à bord du vaisseau, vous nous fuyez. Pourquoi ? Que vous avions-nous fait ? N'étions-nous point vos premières victimes ? Ne vous avions-nous pas suivi jusqu'au bout ? Alors qu'une autre vous quittait, ne suis-je pas resté à vos côtés, bravant la mort avec vous ? Oh, monsieur, je vous en ai beaucoup voulu de votre étrange attitude à notre égard, à mon égard. vous nous avez quittés. Vous avez regagné l'Europe sans plus vous occuper de nous, de moi, que si nous n'avions pas existé. Et cependant, Maxime, rappelez-vous cette nuit terrible, la dernière nuit que nous avons passée à bord de la belle Diépoise, qui n'était plus qu'une épave, alors que vous gémissiez sur l'abandon de la baronne Proskoff. Qui est-ce qui vous a consolé ?
Oui, oui, je me la rappelle, soupira le pauvre chéri Bibi, qui tenait avant tout à mettre un frein à ce flot débordant de souvenirs. Et il pensait « Allons bon, encore une à qui je dois de la reconnaissance et qui ne me laissera tranquille que lorsque je la lui aurai prouvée. »
Mais ce disant, il recommençait cependant à respirer, car ses reproches assez violents attestaient qu'il n'était point découvert. Et alors, il se rendit compte que toute la méchante impression ressentie d'un examen qu'il avait cru dangereux lui était venue de ce face-à-main toujours braqué sur lui. « Madame, lui dit-il, je vous aime mieux sans votre face-à-main. » Elle l'abaissa et daigna lui sourire. Bien mieux, elle lui mit sa main dans la sienne et se pencha sur lui. Mais fidèle comme Hector et chaste comme Joseph, il se recula avec horreur. Elle s'en montra irritée. « Vous voilà bien dégoûté, » fit-elle. « Mon Dieu, madame, » fit-il en se levant, « je crois bien que voici la fin de l'entracte et je vais rejoindre ma femme. » « Vous lui présenterez mes compliments, » lui jeta la d'Artigue outrée. « Mon cher Maxime, vous ne serez pas étonné que m'ayant traité comme une fille, je me venge comme une fille. La marquise prendra, j'en suis sûre, un grand intérêt à la lecture de certaines lettres. »«
Quelles lettres ? Quelles lettres ? » balbutia le pauvre chéri Bibi.
« Eh, vous avez la mémoire courte. Ces lettres que vous m'écriviez à bord de la belle Diépoise, quand vous me promettiez déjà d'abandonner la baronne Proskoff, et même de divorcer un jour avec votre Sicilie pour épouser madame d'Artigue, redevenue libre de son côté. »
Quels amours compliqués il avait, l'animal !
Pensait pendant ce temps, avec une rage et un effroi grandissant, chéri Bibi. « Jamais je ne mentirai. » Et l'autre, le voyant si dérouté, continuait, impitoyable. « Ah, mon cher, si vous avez la mémoire courte, vous avez l'écriture longue. Votre femme sera certainement enchantée de savoir avec quels yeux vous la jugiez à cette époque, comment vous l'appréciez et de quelle manière vous en parliez. Une femme peut oublier les mauvais traitements, les infidélités, les humiliations. Mais il y a certaines choses, certaines petites choses qu'elle ne pardonnera jamais. Ce sont celles, les plus douloureuses, qui tendent à la tourner en ridicule. » Le malheureux chéri Bibi étouffait. Il s'était rejeté dans un coin de la loge. Il pensait que décidément on n'avait pas de chance dans la famille avec les lettres. « Combien ? » râla-t-il. Mais maintenant, madame d'Artigue riait de toutes ses dents. Qu'elle avait belle. Voyant cet homme en son pouvoir, elle s'amusait de lui, cruellement. « Mon Dieu, comme vous êtes devenu brutal, mon cher marquis, » fit-elle. « Avez-vous oublié que le cadeau vaut moins par lui-même que par la façon dont il est donné ? Je repousse vos présents, si vous ne les offrez point avec grâce. Mais attendez, on frappe les trois coups, le rideau va se lever, retournez auprès de la marquise, à laquelle vous ferez mille amitiés de ma part. » « Quand vous reverrai-je ? » implora chéri Bibi, bouleversée, et en baisant humblement cette main qu'elle lui tendait et qu'il eût voulu mordre.
« Mais ce soir même ? » ?»«
Ce soir même ? » s'exclama chéri Bibi de plus en plus troublée.
« Ce soir même, mais c'est impossible. »
« Je le veux !» répliqua cette femme entêtée. « Charles et moi allons souper à l'abbaye de Bedlam. J'ai encore quelques petites choses à vous dire, qui ne sauraient souffrir de retard. À tout à l'heure, j'y compte. »
D'Artigue rentrait dans la loge. Chéri Bibi, qui avait une envie folle de se jeter sur le couple et d'en faire de la chair à pâté,
se sauva, les tempes battantes, le cœur en tumulte, les oreilles bourdonnantes. Il retrouva Cécilie, qui était déjà tout au spectacle. Les malheurs d'Œdipe continuaient. De plus en plus, Chéribibi était conduit à faire un singulier rapprochement entre la fatalité qui avait si méchamment frappé le héros antique et celle qui le poursuivait, lui, jusque dans cette salle de spectacle. Au fond, qu'étaient les crimes d'Œdipe, lequel avait tué son père et épousé sa mère dans l'ignorance où il était resté de sa naissance, à côté de ceux de Chéribibi, innombrables, tous s'engendrant les uns les autres et tous issus d'un geste généreux. Le geste qui avait tué le père de Cécilie dans un moment où Chéribibi voulait le sauver. Et voilà que maintenant qu'il se croyait débarrassé enfin de la nécessité de tuer, après avoir pris la peau d'un autre, la catastrophe rôdait de nouveau autour de lui, préparait sournoisement ses coups, venait de lui faire entrevoir sa hideuse face rouge. Chéribibi broya sournoisement la tablette de la loge sur laquelle Cécilie avait disposé sa jumelle, son réticule et ses aimables bibelots dont ne se départ jamais une jolie femme. Il fallait bien qu'il passât sa fureur sur quelque chose. La tablette céda. Les objets qu'elle soutenait tombèrent avec éclat. Cécilie poussa un cri. Toute la salle se retourna. Des protestations s'élevèrent. En ce moment, Œdipe, qui venait de s'arracher les yeux, descendait les marches du temple en promenant ses mains ensanglantées sur les jeunes fronts innocents d'Éthéocle et de Polynice. Un tel spectacle, l'émoi de la salle, le cri de Cécilie, la rage qui était dans son cœur, tout contribua à faire perdre la tête à ce pauvre Chéribibi, qui, lui, s'arracha les cheveux dans un geste sauvage, et, montrant sur la scène le fils de Laïus, abandonné des dieux, s'écria « Voilà un type dans mon genre ! Voilà un type dans mon genre !» La marquise, épouvantée, croyant que son mari était subitement devenu fou, le suppliait de se calmer, l'entourait de ses bras tremblants et le défendait contre l'invasion de deux gardes républicains qui accouraient pour expulser les perturbateurs. « c'est bien, pas d'histoire !» dit Chéribibi. « Nous nous en allons, et surtout ne me touchez pas. Je suis le marquis du Touchet. » À l'énoncé de ce titre, les gardes, comme de bons républicains qu'ils étaient par définition, s'inclinèrent. Alors Chéribibi aida la marquise éperdue à mettre son manteau, passa son par-dessus et sortit avec dignité, regrettant à part lui de n'avoir pas pu conserver son sang-froid. Derrière eux, des imprudents murmuraient « C'est un fou !» et cela assez haut pour que Chéribibi pût les entendre. Mais il faisait la sourde oreille, ayant hâte de mettre dans sa voiture la malheureuse Cécilie, qui tremblait comme une feuille agitée par le vent d'automne. À peine furent-ils seuls, après qu'il eut jeté l'adresse de l'hôtel au chauffeur, que la marquise éclata en sanglots. Chéribibi la prit sur son cœur et lui dit « Mon adoré, calme ta peine. J'ai eu un accès de fièvre chaude. Depuis ce fatal voyage dans les mers de Malaisie, cela m'arrive quelquefois. Mais comme tu vois, cela ne dure pas, et je n'en avais pas eu depuis 18 mois. Du reste, les médecins que j'ai consultés m'ont dit que je finirais par ne plus en avoir du tout, que cela ne trouble point notre bonheur. » « J'ai eu bien peur !» soupira Cécilie, qui avait véritablement craint pour la raison de son mari. Elle fut la première, arrivée à l'hôtel, à parler d'un repos nécessaire. Chéribibi se montra sage comme une image et se laissa border comme un petit enfant. Mais, vers minuit, il quittait sa chambre en tapinois et ne rentrait à l'hôtel qu'à l'aurore. Ce matin-là, quand il se présenta dans la chambre de la marquise, il avait la mine encore ravagée sous un grand air de satisfaction. « C'est singulier, lui dit-elle, tu as l'air à la fois content et malade.
Eh, ma bonne amie, si je suis malade, c'est que l'atmosphère de Paris ne me vaut décidément plus rien. Et si je suis content, c'est qu'avec votre permission, j'ai résolu d'en chercher une autre.
Nous n'aurions pas dû quitter Dieppe, soupira la marquise.
Retournons-y, s'écria Chéri Bibi. Les bagages furent vite prêts. Comme ils quittaient l'hôtel, un camelot leur passa sous le nez en hurlant « Le double assassinat de l'île de Puteaux, mort tragique de monsieur et de madame d'Artigues. »
Le marquis et la marquise poussèrent un même cri d'horreur. Ils tombèrent sur ces quelques lignes en dernière heure. On a cru d'abord que monsieur et madame d'Artigues s'étaient noyés en passant la Seine cette nuit pour se rendre dans l'île de Puteaux, où ils possèdent un pavillon qui a été le théâtre de bien des petites fêtes. Mais l'examen des cadavres prouve qu'ils ont été tous deux victimes d'une effroyable agression. Le cou et la gorge portent des traces horribles de strangulation. On se croit en face d'un étrange drame passionnel.
« Ah, oh, ce Paris, ce Paris !» s'écria Chéri Bibi. « Je n'y remettrai plus jamais les pieds. On rencontre un jour des amis en bonne santé, le lendemain il n'en reste plus rien qu'un article qui les déshonore. »
Cécilie frémissait, muette d'épouvante.
« À Dieppe ! À Dieppe !» cria Chéri Bibi, « et en vitesse !»
Chapitre 7 Où Chéri Bibi goûte un bonheur éphémère. 9 mois après, Chéri Bibi était père. Ce fut un grand bonheur pour tout le monde. Bien qu'il fût de notoriété publique, à Dieppe et dans les environs, que depuis qu'il était revenu de ses aventures, le marquis de Touchet n'attachait point ses souliers avec des saucisses, il y eut une grande distribution de secours aux pauvres. Le bon La Ficelle vit se doubler ses appointements. Heureux Chéri Bibi, heureux La Ficelle. Enfin, ils y étaient entrés dans le paradis. Rien ne venait plus troubler leur sécurité. Le Pont-Marie avait disparu de l'horizon. Ils aimaient et ils étaient aimés. La jeune Virginie avait en effet répondu au feu de Monsieur Hilaire. Les deux compères se laissaient soigner, dorloter, vivre au cours langoureux des jours et des nuits. Ils avaient des conversations attendrissantes sur les conditions du bonheur parmi les hommes. Souvent, en remontant de compagnie la côte du Pollet, ils devisaient comme des sages. Le moral de Chéri Bibi avait changé en même temps que son physique, et maintenant la transformation était complète. Il se sentait beau, fort et riche. Alors il devenait bon, tout en restant fort ménager de son bien, ce qui est le suprême de la sagesse. Ceci ne prouvait point que tous les gens qui sont beaux, forts et riches fussent bons, mais bien que la méchanceté antérieure de Chéri Bibi n'était qu'un accident. Et cela lui suffisait à lui-même, quand il pensait encore, le moins souvent possible, à certaines choses du passé et qu'il avait besoin de s'excuser. Quelquefois, Chéri Bibi arrêtait La Ficelle devant une modeste maison de pêcheurs. C'était le soir, l'homme était rentré de ses durs travaux et fumait sa pipe sur le seuil, tandis que la femme raccommodait les filets et que la marmaille jouait dans le ruisseau. « Regarde-moi ce tableau, » disait-il. « Ces gens sont pauvres, mais honnêtes. Ils sont heureux. L'argent pourrait les perdre. Ne cherche point d'autre raison, La Ficelle, à ce que tu appelles ma parcimonie, par politesse. Je ne demande pas mieux que de secourir ceux qui ont besoin. Mais d'abord, il faudrait me prouver que ceux-ci ont besoin de quelque chose. » Ainsi philosophant, ils arrivaient à la villa de la Falaise. Chéri Bibi apercevait le voile blanc qu'agitait Cécilie, et il hâtait le pas. « Elle m'attend, la chère femme !» Elle l'attendait, en effet, avec son dernier nez sur les bras, et c'était une minute bien attendrissante que celle qui réunissait le père, la mère et l'enfant. Tendresse et baiser, douce joie de la famille. Le cœur de Chéri Bibi se fondait à la chaleur de cet aimable foyer. Les yeux de la ficelle se mouillaient de larmes. Le petit Bernard, adorable garnement, donnait par ses jeux de la gaieté à ce tableau bucolique. Gâté par son père, qui ne lui refusait aucun jouet, il était le petit tyran de la maison. Et Cécilie, en constatant chaque jour la parfaite conduite de son mari envers celui qui avait pris une place qui ne lui appartenait pas, sentait redoubler son amour pour cet homme extraordinaire qui l'avait autrefois tant fait souffrir et qui lui donnait aujourd'hui de si inattendus sujets de satisfaction. Elle avait naturellement désiré que le bébé fût baptisé du nom dont elle nommait elle-même le marquis, depuis que le bonheur conjugal avait pénétré, d'une façon aussi inopinée qu'héroïque, sous le toit de la villa de la Falaise. Mais, par un entêtement étrange, le marquis s'était opposé à ce que l'on donnât à son fils le prénom de Maxime, et l'enfant s'appelait Jacques. Le père avait dit qu'il trouvait ce nom gentil. La ficelle, qui n'ignorait point le vrai prénom de Chéri Bibi, avait surenchéri sur le charme de ces deux syllabes. La mère avait consenti, et Jacques était maintenant un gros bébé de 3 mois, qui ne ressemblait pas plus à son père que son frère aîné, du reste. Non, on ne retrouvait point dans Jacques les traits du marquis du Touchet, mais une certaine rudesse de visage inconnue de la famille, qui enchantait d'ailleurs Chéri Bibi, tout en inquiétant un peu la mère. Il n'avait point l'air commode, le moutard, et déjà il n'en faisait qu'à sa grosse tête. Cécilie avait voulu l'allaiter. Quand Chéri Bibi voyait la tête de son fils sur ce beau sein adoré, il ne pouvait s'empêcher de lever vers le ciel, auquel il avait si souvent montré le poing, des yeux reconnaissants, et de remercier la Providence de lui avoir réservé pour le milieu de ses jours, après tant de tribulations, un bonheur que rien désormais ne semblait devoir troubler. Jamais plus il ne prononçait le mot « fatalitas ». Et il tendait à croire que les humains sont surtout des êtres bien impatients, qui ne laissent point à la sagesse divine le temps de balancer, par un apport certain de félicité, toutes les tristes épreuves par lesquelles la Providence s'est plu d'abord à les faire passer, à seule fin de leur faire mieux goûter, par l'antithèse, le prix du bonheur sur la terre. Une seule chose au sein de cette merveilleuse béatitude le chagrinait. C'était la conduite du bon La Ficelle. Il la trouvait déréglée, et plus d'une fois, il ne le lui avait point envoyé dire. Monsieur Hilaire avait une maîtresse en ville. Cette Virginie était une jeune fille de bonne famille normande, c'est-à-dire de braves paysans qui avaient un petit bien dans le pays de Caux. Elle était venue servir à Dieppe parce que, avec un certain goût qu'elle avait de la coquetterie, il lui déplaisait de traire des vaches. Tant est que monsieur Hilaire l'avait eue sage, ce dont il s'était vanté auprès de son maître, comme un sot. Il n'en avait point récolté de félicitations. Loin de là, Chéri Bibi lui avait reproché toute l'ignominie de sa conduite. Quand on a l'honneur d'être le secrétaire de monsieur le marquis du Touchet, du nouveau qui était un homme rangé, d'intérieur, bon mari et bon père, bien pensant et conduisant son monde à la messe, on n'a aucune excuse de séduire les filles. « As-tu songé, mon ami ?» disait certains soirs le marquis à son dévergondé secrétaire. « As-tu songé à ce qui peut arriver à cette pauvre enfant ? Imagine qu'elle devienne mère. La voilà perdue par ta faute. Tu l'as déshonorée. Que ferais-tu en pareil cas ? Songe à la responsabilité que tu encours pour quelques moments de plaisir. » « Virginie est débrouillarde, » répondit la ficelle. « Je la connais, elle s'en tirera toujours. » « Tu raisonnes en égoïste et comme un sans-cœur, monsieur Hilaire. Vous me dégoûtez. Ne me parlez plus jamais de vos amours. » Monsieur le marquis, il faut pourtant que je vous en parle encore. Ce que vous avez prévu n'est que trop arrivé. Virginie est enceinte.
La malheureuse, que vas-tu faire? Réfléchis avant de dire une bêtise.
J'ai réfléchi, monsieur le marquis, j'ai réfléchi que Virginie s'en tirerait toujours avec une petite somme d'argent.
Tu n'as pas le sou, tu dépenses tous tes appointements.
Sans doute, mais je suis certain que monsieur le marquis, dans une occasion pareille, ne nous laissera pas dans l'embarras. Si je donne 5 000 francs à Virginie, elle sera contente et il n'y aura pas de scandale.
Pas un franc, tu entends? Pas un sou. Je ne veux pas encourager tes vices. Et s'il y a scandale, je te chasse.
Vous ne ferez pas ça, monsieur le marquis.
Je le ferai comme je le dis.
Virginie m'arrachera les yeux.
Beau dommage, tu n'as qu'à te conduire comme il faut avec cet enfant, et elle ne t'arrachera rien du tout.
Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse?
Épouse-la.
Vous parlez sérieusement, monsieur le marquis?
Petit débauché, quel conseil attendais-tu donc de moi? Pour la mère et pour l'enfant, tu dois l'épouser.
Je l'ai vue, elle fera une excellente femme de chambre.
Monsieur le marquis, j'avais espéré faire un beau mariage.
Fais d'abord un honnête homme, la ficelle. Épouse ta Virginie et je te donne 10 000 francs.
Ah, monsieur le marquis, c'est encore vous qui êtes le meilleur de nous tous.
C'est vrai, vous avez raison. Virginie m'aime et je l'aime. Pourquoi chercher la fortune quand on a le bonheur? Il ne faut pas trop avoir d'ambition.
Ah, la bonne heure. J'aime à t'entendre parler comme un brave garçon.
Un beau mariage. Qu'espérais-tu donc? Songe que je t'ai tiré de rien, la ficelle. Que tu n'es qu'un pauvre mitron dont j'ai fait le secrétaire de monsieur le marquis du Touchet.
Je ne l'oublierai jamais, monsieur le marquis, jamais. Alors je cours apprendre cette bonne nouvelle à Virginie.
Justement, cela tombe bien, elle doit quitter sa place aujourd'hui ou demain au restaurant du port. Le nouveau propriétaire arrive avec un nouveau personnel, paraît-il.
Il change donc tout le temps de propriétaire, ton restaurant du port? Demanda chérie Bibi, qui se rappelait que la ficelle lui avait déjà appris, il y avait 1 an environ, le départ de monsieur Oscar.
Ah, le nouveau propriétaire est attendu depuis 1 an. Il devait arriver du jour au lendemain, et il y a 1 an que ça dure.
C'est même assez drôle. Pendant tout ce temps-là, c'est un bonhomme venu de Paris qui a fait l'intérim avec Virginie.
Heureusement qu'il avait affaire à une fille honnête, ce gérant-là, car il ne connaissait rien à la restauration, paraît-il, ni à la limonade. Et pour remercier Virginie, voilà qu'on l'affiche à la porte.
Tu l'amèneras ici. Elle commencera son service demain, fit chérie Bibi.
Ah, monsieur le marquis, c'est bon, tu me remercieras une autre fois, chenapan.
Et où accouchera-t-elle, monsieur?
Chez moi.
Ah, mon Dieu! Et le petit, où qu'il sera élevé?
Chez moi, avec le mien, la ficelle.
Mon Dieu, mon Dieu! Alors ils joueront ensemble? Ils grandiront ensemble? Ils... Ah, tenez, monsieur le marquis, il faut que je vous embrasse. Je savais bien, moi, que vous étiez un brave homme.
Eh bien, embrasse-moi donc, et surtout continue, toi, à être un brave garçon. C'est encore le meilleur moyen d'être heureux ici-bas, la ficelle.
Monsieur Hilaire sortit des bras de monsieur le marquis tout en larmes, et ce fut pour courir, comme un fou, à Dieppe, pour dégringoler la côte du Pollet, au bout de laquelle il arriva essoufflé et tout en nage. Au coin du pont, il faillit se faire écraser par une voiture qui remontait à puits, à grande allure. C'était une légère voiture de maître, un élégant bogey, dans lequel se trouvait un homme qui apostrophait avec assez de rudesse l'imprudent la ficelle. À cette voix, le secrétaire du marquis du Touchet tressaillit et se retourna vivement. Mais déjà le petit équipage était parti à fond de train.
« Quelle brute !» murmura la ficelle.
Sur le trottoir du pont, un homme qui avait assisté à l'incident s'avança.
« Eh bien, vous l'avez échappé belle. Il est pressé, le docteur Walter !»
fit le passant en qui le secrétaire du marquis du Touchet reconnut M. Costaud, agent de la Sûreté générale. Monsieur Hilaire salua sans répondre et s'éloigna en haussant les épaules. Monsieur Hilaire n'aimait point la conversation de ces messieurs de la police en général, ni en particulier celle de monsieur Costaud, dont la figure ne lui avait jamais beaucoup plu. 5 minutes plus tard, il poussait la porte du restaurant du port et était accueilli, moitié figue, moitié raisin, par la belle Virginie, qui lui fit signe aussitôt de s'asseoir dans un coin près du comptoir. Elle était rouge comme un bouquet de cerises, les cheveux ébouriffés, le bonnet de travers, et lui confiait en haletant qu'elle avait eu à se défendre avec une certaine énergie contre les entreprises galantes du nouveau patron qui venait enfin d'arriver. Elle l'avait du reste proprement giflé, avait réclamé son dû et attendait que le bonhomme redescendît du premier étage où il était allé chercher de l'argent pour lui régler son compte. « Je suis bien contente de partir, » expliqua-t-elle, « car cet homme-là me fait peur. Il roule un ventre de barrique et vous fusille avec de petits yeux de fouine. On ne sait pas à le regarder s'il veut rire ou vous assassiner. Quand il s'approche de vous, on se recule instinctivement, comme à l'approche d'un monstre. Quand j'ai vu qu'il voulait m'embrasser, j'ai crié d'horreur et je l'ai battu. J'ai cru qu'il allait me tuer. Et puis, il a ri d'une façon sinistre. » À ce récit, M. Hilaire s'était senti entrepris par une noble indignation. « J'arrive bien, » fit-il avec solennité. « D'abord, Virginie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je t'épouse. Monsieur le marquis nous donne 10 000 francs pour nous mettre en ménage. Tu seras femme de chambre de Madame la marquise, qui est une bien bonne personne. Notre enfant sera élevé avec le fils de la maison. Nous voilà heureux pour toute la vie, Madame Hilaire. » « Mon Dieu, est-ce bien possible ? » s'écria Virginie, qui, à l'annonce de cette fortune inespérée, changea de couleur. C'est-à-dire que de rouge qu'elle était, comme un bouquet de cerises, elle devint blanche comme une fleur d'oranger. « C'est si bien possible que je t'emmène à l'instant. Et malheur désormais à celui qui voudra te faire des avanies. Je suis un peu là pour te faire respecter. Et en premier lieu, tu vas voir comment je vais l'arranger, ton patron. Ta malle est prête ? Oui, va la chercher. Fais-la descendre par la fille de cuisine. Moi, je reste ici pour dire son fait à ce Galapia. Oh, mon chéri, prends garde surtout. C'est un homme qui m'a l'air capable de tout. Attends que nous soyons sortis pour lui crier ce que tu as à lui dire. » conseilla la prudente Virginie. « Ne crains rien, je sais ce que j'ai à faire, et je lui apprendrai à se conduire avec les honnêtes femmes, moi, à ce tonneau, quitte à le mettre en perse. » Virginie courut donc chercher sa malle, et presque dans le même instant, à l'autre bout du cabaret désert, apparut le patron. Il passa dans la lumière de la porte, et M. Hilaire put le voir en plein. M. Hilaire, qui était assis, se leva comme projeté en l'air par un ressort mécanique et retomba sur son siège comme une masse inerte. Le nouveau venu, qui avait aperçu cette gesticulation désordonnée, n'en parut pas autrement étonné. Il continua de rouler vers son unique client, sa panse rebondit, et quand il fut près de lui, il lui tendit une horrible main flasque au bout d'un bras trop court. « Bonjour, la ficelle. Comment que ça va, mon garçon ?» La ficelle murmura dans un souffle « Petit bon Dieu !»« Eh oui, mon bon la ficelle, petit bon Dieu lui-même, pour te servir, quoi. Tu ne dis rien ? Cela t'étonne de me voir ici ? Tu savais pourtant bien que le rêve de ma vie était de m'établir cabaretier. Eh bien, m'y voilà. Que veux-tu ? À mon âge, on commence à en avoir assez des aventures. J'ai trop traîné ma bosse à travers le monde. Je me range. Je deviens bourgeois tout comme un autre. Et toi, la ficelle, ça va-t-il comme tu veux ? » Le malheureux la ficelle, qui ne savait où se mettre et qui maudissait la minute où il se trouvait en face d'un fâcheux témoin du regrettable passé, le malheureux la ficelle ne sut que dire « Je te croyais mort !» « Tu en es bien excusable, mon bon ami, déclara Petit Bon Dieu en glissant un escabeau entre ses jambes et en s'attablant à côté du secrétaire du marquis du Touchet. « Je dois dire que quelques-uns de mes amis et moi, nous avons fait le nécessaire pour que cette croyance fût assez généralement répandue. C'est plus prudent. Toi-même, n'as-tu pas changé de nom en suivant la fortune de monsieur le marquis du Touchet? Et pourtant, tu n'avais pas encore, que je sache, eu affaire à la justice de ton pays, ni à celle des autres. Mais ton amitié pour défunt chéri Bibi et le rôle assez important que tu avais bien voulu jouer dans la révolte du Bayard... Hein? Quoi? Tu me dis de me taire? Mon Dieu! Gémit le tremblant la ficelle. J'aimerais autant que l'on parlât d'autre chose. Il n'y a personne ici pour nous écouter, continua Petit Bon Dieu imperturbable. Rassure-toi donc, j'ai autant d'intérêt que toi à ne point ressusciter les ombres du passé. Il n'y a plus ici que Monsieur Bénevent, Jean-Charles Bénevent, honnête cabaretier restaurateur, qui va se permettre d'offrir un petit verre de vieux mar à son vieil ami, Monsieur Hilaire, secrétaire de Monsieur le Marquis du Touchet. Tu vois, je suis renseigné sur ton compte, et je te renseigne sur le mien, à seule fin qu'il n'y ait pas d'erreur. Calmez-vous donc, Monsieur Hilaire, ne me montrez plus cette vilaine figure décomposée. Nous sommes faits pour nous entendre. Je sais bien que vous préféreriez me savoir bien réellement trépassé au plaisir de trinquer avec moi. Mais que voulez-vous? C'est le hasard qui m'a amené à acheter ce fonds. Le pur hasard que je bénis, moi, puisqu'il me vaut de me rapprocher d'un ami si fidèle. Petit Bon Dieu, qui, comme nous l'avons dit, avait été clerc d'huissier, n'avait point perdu, même en traversant le bagne, l'habitude du beau langage. « Allons, à ta santé, la ficelle, goûte-moi cette vieille eau-de-vie. »« Ah, ça, tu ne vas pas te trouver mal, mon garçon. »«
Non, non, c'est la surprise, l'étonnement, n'est-ce pas? Je ne m'attendais... »«
Évidemment, tu n'étais pas préparé. Eh bien, et ton patron, il se porte toujours bien ?»«
Toujours, toujours. » balbutia la ficelle en manquant de s'étrangler avec son mar, car il avait avalé de travers.
Voilà un brave homme. Moi, je l'aime beaucoup. Je lui dois tout à ce marquis-là. C'est avec ma part que je suis venu m'établir ici, tandis que les autres la gaspillaient là-bas, du côté de la Chine. Je ne lui souhaite que du bonheur, moi, monsieur du Touchet. Inutile de le lui dire, n'est-ce pas? Je ne te charge pas de lui faire part de mon arrivée dans le pays. « À lui, il n'y a personne. »«
Écoute, petit bon Dieu, » interrogea la ficelle d'un air fort embarrassé. « Il y a une chose que je ne comprends pas. »«
Dis, mon petit, je pourrais peut-être t'expliquer. »«
Eh bien voilà, comment que ça se fait que tu sois venu dans un pays où que tu étais sûr que tu pourrais retrouver des gens qui te reconnaîtraient ?»«
Allons donc me reconnaître, mais on me croit mort !» À bord, je ne l'ai jamais beaucoup fréquenté, ton marquis, et il y a des chances pour qu'il ne vienne pas déjeuner ici.
T'as tout de même du toupet, petit bon Dieu.
C'est vrai que ça ne m'a jamais manqué.
Sais-tu que tu rêverais de faire encore un mauvais coup?
Je suis rangé, que je te dis.
Il y a plus d'un an que tu as acheté ce cabaret. Comment ça se fait qu'on ne t'y voit qu'aujourd'hui?
Je vais te dire. Avant de m'établir honnête homme, je trouvais que ma mort était encore un peu jeune. Un an de plus dans la tombe, et une belle barbe qui pousse, ça ne m'a pas empêché de te reconnaître du premier coup.
Parce que tu m'aimes, la ficelle.
Et Petit Bon Dieu heurta son verre contre celui du malheureux garçon, en riant d'une façon bien sinistre. Sur ces entrefaites, Virginie arriva dans la salle du cabaret avec sa malle. Elle trouva son fiancé en train de boire avec l'homme qui s'était si grossièrement conduit avec elle tout à l'heure. Elle en resta comme anéantie, les mains ballantes. Enfin, elle put prononcer avec courroux.
« Monsieur Hilaire, vous n'avez pas de cœur. »«
De quoi? De quoi, la petite ?» gronda le nouveau cabaretier.
Mais déjà, Monsieur Hilaire s'était levé tout pâle, et il dit, la voix tremblante, « Monsieur Bénevent,
Je vous présente mademoiselle Virginie, ma fiancée. »
« Ah !» fit l'autre, « tous mes compliments. Vous avez là une maîtresse femme, monsieur Hilaire. Je regrette bien qu'elle ne soit déjà promise, sans quoi je lui aurais offert ma main. »
« C'est moi qui vous ai mis la mienne sur la figure, vieux polisson. »«
Ne craignez rien, je ne l'ai pas oublié. »
répliqua petit Bondieu avec un regard si sournois et si menaçant que le pauvre La Ficelle ne put s'empêcher de frissonner.
« Allons, la belle, » continua petit Bondieu, « combien je vous dois ?»
Il la régla, lui demanda de ne point lui garder rancune, força La Ficelle à retrinquer avec lui pendant qu'on était allé chercher une voiture pour emporter la malle, et se tenait encore, goguenardant cyniquement sur le pas de sa porte, quand M. Hilaire et sa fiancée s'éloignaient à la hâte du côté du Paulet. Virginie était outrée. La conduite de son futur époux lui apparaissait moins que reluisante, et elle menaçait, devant tant de lâcheté, de rentrer chez sa mère. À sa grande surprise, M. Hilaire, qui jusqu'alors ne lui avait pas répondu, retrouva l'usage de la parole pour lui exprimer qu'il était tout à fait de cet avis et qu'un immédiat séjour chez ses parents, qui habitaient dans les environs, ne pouvait lui faire que du bien et lui procurer le repos nécessaire avant qu'elle n'entrât dans sa nouvelle place. Elle le quitta, ne comprenant rien à ce qui se passait, mais profondément vexée. La Ficelle ne fut pas plutôt seule qu'il courut comme un fou jusqu'à la côte du puits. De temps en temps, cependant, il s'arrêtait pour souffler. Alors il se prenait les cheveux à poignée et frémissait. « Ça allait trop bien ! Ça allait trop bien ! Qu'est-ce qu'il est venu faire ici, celui-là, mon Dieu ? Et qu'est-ce que va dire chérie Bibi ?» Puis il reprenait sa course. À la villa de la Falaise, on lui apprit que monsieur le marquis venait de sortir. On était venu le chercher de la part de sa mère, la marquise Douairière, qui, paraît-il, allait plus mal.